Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Et si on prenait notre envol pendant cette balade radiophonique prometteuse? En effet, je reçois un philosophe engagé dans la cité, qui fut ministre de l'Éducation nationale, et que l'observation de nos sociétés contemporaines passionne autant que les textes fondateurs. Sûrement parce que ces derniers permettent la première. Luc Ferry, puisque oui, il s'agit de lui, c'est mon invité, Luc Ferry fait paraître chez Plomb un dictionnaire amoureux de la philosophie.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue, cher Luc Ferry. Alors, votre dictionnaire amoureux de la philosophie pèse son poids de passion. 1485 pages, dictées avec virtuosité par une intelligence gourmande. Mais en ces temps troublés, il y a une chose qui m'intrigue, Luc Ferry. La philosophie, c'est une quête qui s'applique à l'individu. Mais s'applique-t-elle aux sociétés? S'applique-t-elle à la masse informe qui progresse de milliard en milliard de façon exponentielle et qu'on appelle l'humanité? Parce que sur 7,5 milliards d'individus sur cette planète, combien se préoccupent réellement de philosophie?
Quand ils s'intéressent à la politique, forcément ils s'intéressent à la philosophie, parce que les grands philosophes politiques, que soit Rousseau, que soit Montesquieu, que soit Tocqueville et tant d'autres, ou Marx évidemment aussi, et la tradition du socialisme français, Jaurès, et la même chose en Allemagne et dans les autres pays. Évidemment, quand on s'intéresse au collectif, on s'intéresse forcément à la philosophie politique. Donc il y a une grande tradition, aussi bien libérale que socialiste et même marxiste, de philosophie politique qui a passionné le monde entier. Regardez, pour le meilleur et pour le pire, ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Russie avec l'Union soviétique. On a des peuples entiers qui se sont passionnés pour la philosophie politique, encore
et
une fois, pour le meilleur et pour le pire.
En faisant de la politique, de la philo, sans le savoir.
Sans le savoir, mais souvent aussi en s'intéressant au moins aux valeurs qui sont derrière le socialisme, derrière le communisme, derrière le libéralisme, derrière l'idée républicaine. À chaque fois qu'on a ces débats, sans le savoir, ou peut-être parfois en le sachant, on évoque des idées philosophiques qui sont cachées derrière.
Alors, vous dites la philosophie, c'est une doctrine du salut qui se déploie sans Dieu. C'est donc une spiritualité laïque.
Oui.
Mais la philosophie n'est pas qu'une question de salut. La quête de la sagesse est au cœur de tout. Or, comment peut-on être sage quand, contrairement à l'animal, on sait qu'on est mortel? Le destin de l'homme le condamne dès la naissance et il connaît la sentence. Donc, en fait, l'homme a le choix entre trois choses. Ne pas réfléchir, et s'y réfléchir, devenir fou ou devenir sage.
Il y a un petit texte de Schopenhauer, qui est donc un philosophe allemand, qui a écrit un grand livre qui a marqué beaucoup l'histoire de la philosophie dans les années 1819-1820. Ce philosophe allemand dit une chose que je crois extrêmement profonde et juste en même temps, ce qui est rare d'ailleurs. Il dit voilà, si nous n'étions pas mortels, jamais nous n'aurions inventé ni les grandes religions, ni les grandes philosophies.
Bien sûr.
Parce que, à la différence des animaux probablement, et à la différence des dieux qui sont immortels, nous sommes en quelque sorte entre les deux, nous savons que nous allons mourir et du coup...
Il nous faut de la consolation.
C'est pas seulement la consolation, c'est surtout, et puisque je vais mourir, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais faire de cette vie qui finalement est très courte en vérité? On ne s'en aperçoit pas quand on est jeune, mais dès qu'on passe 50 ou 60 ans, et peut-être même avant, on s'aperçoit que finalement ça va très très vite, qu'une vie c'est incroyablement court et donc on ne peut pas s'empêcher, surtout qu'on perd des amis, on perd des parents, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'on fait là. Donc ce que je vous dis là est très banal, c'est tout bête, mais la philosophie et la religion, ou les religions et les philosophies, elles sont nées de ce sentiment de ce que les philosophes appellent la finitude, c'est-à-dire le sentiment que notre vie est très brève et que finalement, la question du sens de la vie ou la question de la vie bonne pour les mortels, comme disaient les Grecs, elle est inévitable.
Alors, en France, Luc Ferry, on ne découvre la philosophie qu'en classe de terminale, au lycée. Et ça, grâce à un décret, j'ai appris en lisant votre dictionnaire amoureux de la philosophie, grâce à un décret paru en 1809, donc sous Napoléon, et qui rendait obligatoire une année d'enseignement de philo. Mais depuis 1809, rien n'a évolué dans son enseignement. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a fini par confondre la philosophie avec une sous-espèce, dites-vous, de l'instruction civique.
Oui, quand...
C'est tout à fait
c'est un peu dommage, oui,
inquiétant.
Oui, c'est un peu dommage parce que, bien sûr, l'argumentation, la réflexion critique, l'esprit critique, tout ça fait partie de l'enseignement de la philosophie à juste titre. Il ne faut pas, évidemment, jeter la pierre à cet enseignement de la philosophie. Mais il n'y a pas que ça. L'idée qu'avaient, en effet, les fondateurs de la classe de philosophie, c'est que, En fait, c'était une idée sociale et politique. Ils avaient l'idée que, c'est pour ça que c'est la classe de terminale, que lorsque les jeunes gens vont devenir des adultes, ils vont devenir des citoyens, ils vont avoir à voter, par exemple, il y aura des élections. Et donc, l'idée qui présidait à l'origine à la création de la classe de philosophie, c'est l'idée qu'il fallait qu'on apprenne à argumenter, à discuter, à débattre, comme dans une campagne électorale. C'est évidemment une bonne chose, mais la philosophie, ça n'est pas ça. La philosophie, c'est d'abord et avant tout, un, la recherche de la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une connaissance vraie, qu'est-ce que c'est qu'une vérité. Donc c'est une philosophie des sciences ou d'abord une philosophie de la connaissance. Deux, c'est comment pacifier les relations humaines. Et donc ça, c'est la question morale et politique, comment finalement pacifier les relations humaines. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que c'est que le but de la vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne pour les mortels. Ces trois questions, question de la vérité, question de la morale et de la politique, et puis question du sens de la vie, sont les questions qui préoccupent la philosophie beaucoup plus que la question finalement assez banale de la campagne électorale ou de l'argumentation de l'esprit critique. Ce n'est pas le fondement de la philosophie.
Et pourtant, j'ai envie de rebondir sur justement la question de la vérité.
Oui.
Parce que vous affirmez dans ce dictionnaire amoureux de la philosophie que ceux en fait qui croient que la philosophie ne vise qu'à trouver la vérité, vaut mieux qu'ils abandonnent la philo au profit de la science, qui, elle, est le discours qui produit par excellence de la vérité.
Voilà.
Bon, vous êtes devenu philosophe et pas scientifique.
Non, j'ai beaucoup étudié les sciences. J'ai étudié 3 ans de la biologie, notamment la biologie du cancer, qui est une biologie tout à fait passionnante. Je ne pense pas qu'on puisse philosopher. Aucun grand philosophe n'a philosophé sans passer par les sciences. Mais la philosophie est plus une réflexion sur la connaissance, à ce niveau-là, ou à ce premier niveau, qu'une production de vérité. Ce qui produit des vérités, c'est la science aujourd'hui. Elle produit des vérités sur la maladie, sur le réchauffement climatique, sur l'astronomie, que sais-je encore. La philosophie est plutôt une réflexion sur la science, mais elle ne produit pas elle-même de vérité. D'ailleurs, ce n'est pas démonstratif. La philosophie n'est pas une science. Voilà. C'est d'ailleurs, sinon, encore une fois, ça se saurait depuis longtemps.
Europe 1. Je vous avais dit que cette balade radiophonique allait être jubilatoire. Effectivement. Alors on fait une très courte pause et on retrouve dans un instant mon invité cet après-midi, Luc Ferry.
Une heure d'entretien, une heure d'échange et de réflexion. Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Luc Ferry, qui vient de faire paraître chez Plon le dictionnaire amoureux de la philosophie, son dictionnaire amoureux de la philosophie, et cet après-midi, mon invité. Alors, cher Luc Ferry, à quoi ressemblait-il les Ferry, ces prototypes de voitures que fabriquait votre père, ancien pilote de course?
Oui. Oh ben, il a construit une quinzaine de voitures qui étaient très très belles, et il nous a donné, mais ma mère aussi d'ailleurs, le goût de la philosophie, puisqu'on a été... On était 4 garçons, on a tous étudié la philosophie. Et donc,
3 philosophes sur les 4 fils.
Et l'autre était psychologue, ce qui est... il avait fait aussi des études de philo, donc on était quand même très proches. Et parce que quand mon père dessinait ses voitures, donc on le regardait évidemment dessiner ses voitures, on voyait les modèles sortir de chez le carrossier. Bon. Et donc, en fait, ce qu'il cherchait, c'était toujours la vérité. C'est-à-dire qu'il cherchait à faire, si je puis dire, la voiture la plus vraie, la technologiquement et scientifiquement la plus belle, mais aussi la plus efficace. Ça se rejoint à l'aérodynamique.
Donc vous voyez un parallèle tout à fait évident, naturel, entre ce que faisait votre père dans son atelier et...
Oui.
Vos études de philo.
Absolument, parce qu'il cherchait la beauté et la vérité. C'était vraiment ses deux passions. Et ma mère aussi, d'une certaine manière, dans un autre genre, quand on était petit, quand on avait... Moi, je me souviens, moi, j'avais 3-4 ans. Bon, et mon grand frère, le plus grand Jean-Marc, avait 5 ans de plus. Mais à table, le soir, la conversation était très souvent une conversation, et ça, c'était ma mère qui la dirigeait, si je puis dire, qui portait sur le sens des mots. Par exemple, quelle est la différence entre la vanité, l'orgueil, la présomption? Quelle est la différence entre la jalousie et l'envie? Voilà, et constamment, ma mère nous faisait réfléchir à la signification de ces gros mots, si je puis dire. Et donc, c'était déjà aussi une manière de entrer dans une discussion philosophique. Finalement, c'était très socratique. On était déjà dans les dialogues
vous
de Platon, si
vous
je puis dire.
Vous thématisiez à table.
Exactement, exactement.
Alors, je quitte la salle à manger et je retourne dans le garage de votre père, Luc Ferry. C'était donc un mécanicien de génie, Pierre Ferry, un inventeur et un pilote.
Oui.
Je voudrais savoir si vous avez passé beaucoup de temps, votre affaire et vous-même, dans son atelier de la Garenne Colombe, où l'odeur de l'huile de ricin flottait au-dessus de celle du cambouis.
Ah, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vrai, oui. Il y avait, je ne sais pas, peut-être 200 Bugatti.
Non.
Mais si, il y avait toutes les Bugatti, d'ailleurs, y compris une petite Royale. Tout ça ne valait rien après la guerre. Tout ça n'avait plus aucune valeur. Aujourd'hui, je serais milliardaire, mais si on les avait gardées. Mais à l'époque, ça ne valait plus rien.
C'était que sont-elles devenues voitures.
Oh, elles sont passées à la casse, même, malheureusement. Tout ça a été bazardé, si je puis dire. Quelques-unes ont été vendues à des aristocrates anglais qui voyaient déjà, contrairement aux Français, que ces voitures étaient des œuvres d'art. Voilà. Mais je me souviens, le dernier coupé Atalante, une voiture absolument sublime. Mon père a dû vendre ça au début des années 60, l'équivalent de 10 000 euros d'aujourd'hui. Maintenant, ça vaut peut-être 7 millions d'euros. Donc, tout ça l'avait. Mais en même temps, moi, je voyais déjà, nous, les enfants, nous voyions déjà à quel point ces voitures étaient belles et tout ça était quand même évidemment pour des garçons très, très impressionnant. En plus, mon père avait fait la guerre d'Espagne avec Malraux, donc il avait été membre du deuxième bureau, il avait encore son arme, il avait sa plaque, en fait, il avait tout ce qui allait avec, au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui un agent secret. Bon, il avait monté l'escadrille d'Espagne, il avait armé donc, les républicains espagnols donc, dans les années 30, enfin en 36 pour Malraux, et donc tout ça était évidemment pour nous, très impressionnant. Ça faisait un père extrêmement paternel. C'est le cas. C'était une figure paternelle extrêmement puissante. Voilà.
Et un père qui avait appris à ses quatre fils à démonter et remonter des V6, c'est ça ?
Oui, oui. Oh, peut-être pas. Non, en tout cas, un moteur de Solex ou de Mobilette, oui, ou de 4 chevaux Renault, ça, on était capable de le faire. Oui, on avait appris ça. Aujourd'hui, j'en serais complètement incapable parce qu'aujourd'hui, les voitures sont pleines d'électronique. Plus personne ne peut y toucher. Il faut des machines de diagnostic extrêmement sophistiqué. Mais enfin, oui, démonter un moteur de 4 chevaux Renault, c'est possible. Voilà,
mais
c'est
je jouable. Reviens au chemin pris par les quatre fils Ferry.
Oui,
parce que
la philosophie.
Tout de même,
oui.
Trois deviennent philosophes sur les quatre frères.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'il y avait une éducation qui était vraiment tournée vers l'introspection. Mais ça se cultive, l'intelligence, Luc Ferry ?
En tout cas, oui, parce que moi, je suis... je vais faire rigoler les gens qui m'écoutent parce qu'ils vont dire « ça, c'est bien vrai ». Moi, je ne suis pas spécialement intelligent. J'ai rencontré des gens beaucoup plus intelligents que moi. Par exemple, je ne sais pas, mon camarade Cédric Villani est 1000 fois plus intelligent que moi. Je veux dire, je suis sûr que si on passe un QI, il va être très au-dessus. Bon, ce qui compte pour moi, il y a beaucoup de formes d'intelligence. Il y a l'intelligence du cœur, il y a l'intelligence mathématique qui est très, très sophistiquée. Bon. Et puis, il y a une troisième forme d'intelligence pour moi qui est le goût de la vérité, l'intérêt pour la vérité. C'est pas spécialement intelligent, la vérité. C'est beaucoup plus une question d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir une intelligence mathématique, par exemple, extrêmement sophistiquée, incroyablement performante. Et puis, je sais pas, par exemple, comme Heidegger était sûrement très intelligent, mais il était nazi. Ou moi, j'ai connu des gens extrêmement intelligents, mais qui étaient staliniens, hein, qui n'avaient pas, à mes yeux, en tout cas, je le dis très modestement, le goût de la vérité. C'est pas la même chose. Et puis, encore une fois, l'intelligence du cœur, le fait de comprendre les gens, d'être gentil avec eux, d'être empathique avec eux, c'est très très important et ça n'a rien à voir avec le QI, ça n'a rien à voir avec l'intelligence mathématique. Donc il y a beaucoup de formes d'intelligence. Moi, la mienne, si pour autant que j'ai une forme d'intelligence, c'est vraiment l'intérêt pour la vérité. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas un, j'aime les gens et deux, j'aime la vérité. Voilà, si je peux parler très très. Alors là, c'est pas très humble ce que je viens de dire, mais enfin, c'est la vérité en tout cas. C'est comme ça que je me vois.
On parle vrai. On fait une pause. Voilà. On retrouve Luc Ferry.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit. À 15h21, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de son tête-à-tête avec son invité, Luc Ferry.
Luc Ferry qui fait paraître chez Plon un dictionnaire amoureux de la philosophie et cet après-midi mon invité, Luc Ferry. On évoquait à l'instant votre enfance et votre éducation. Alors, je retourne sur l'adolescence. Renoncer au lycée dès la troisième pour suivre les cours uniquement par correspondance, donc chez vous à la maison avec le CNED, c'est pas anodin. Surtout que vous aviez déjà quitté, n'est-ce pas, à l'école primaire au niveau du CE1.
Oui.
Voilà. Sans motivation, ça peut être dangereux. Qui avait pris cette décision, vos parents ou vous ?
D'abord, on était à la campagne. On était dans un village qui s'appelle Fontenay-Saint-Père, qui était à l'époque loin de tout. Il n'y avait pas de quoi aller au lycée. Il n'y avait pas de bus. Il n'y avait pas aucun moyen de transport. Mon père avait eu un accident très grave, donc on s'est retrouvé dans cette toute petite maison de campagne, dans un village de 400 habitants, loin de tout, donc encore une fois, aucun moyen de communication. Et donc j'ai fait mes études à la fin de la troisième, parce qu'on appelait à l'époque le CNTE, que vous appelez à juste titre le CNED. Mes parents n'ont pas fait d'études. Ma mère avait quitté à cause de la guerre, elle avait quitté le lycée en seconde. Mon père avait le certificat d'études, mais pas plus. Et donc le grec, le latin, la physique, la chimie, tout ça, il n'avait jamais fait. Et donc c'est grâce au CNED, enfin le CNTE, comme on disait à l'époque, que j'ai fait mes études secondaires. Ma grand-mère était directrice d'école et c'est elle, était instite. Et donc c'est elle qui m'avait fait la classe entre le CE1 et la 6e, oui.
Voilà. Et qui gérait un petit peu peut-être, mais voilà. Tout de même, on se désocialise quand on ne va pas à l'école. Et
puis oui,
on se frotte
conseillerais
pas,
ça à personne.
On se frotte pas
oui.
au panel et aux couches sociales de notre société.
Non. D'ailleurs, quand je suis arrivé en fac en 68, j'étais quand même très, très baroque, si j'ose dire. J'étais quand même... bah oui, parce que j'avais passé quasiment toute ma vie à la campagne, sans aucune espèce de relation sociale avec l'extérieur. Donc quand je suis arrivé en fac, j'étais quand même très désocialisé. C'est pas... Je conseillerais ça à personne, parce que ça a été très difficile pour moi, après, d'apprendre, si je puis dire, les relations humaines. Et comme j'aime beaucoup les gens, moi, c'est l'humain qui m'intéresse, ça a été une espèce de conquête
oui, parce que
difficile.
Voilà. À vous, ça a parfaitement réussi, puisque ce démarrage très
singulier
ne vous a pas écarté de la double agrégation de philosophie et oui. de sciences politiques.
Oui.
En revanche, comme vous
oui.
venez de le confier, débouler en fac
oui.
en 1968,
oui,
en plus, qui n'est pas
oui.
anodin,
oui.
Hein, quand on
oui.
ne connaît que les cours par correspondance à la
oui,
maison,
évident, oui.
ça a été un tsunami.
Oui, puis j'étais pas Louis le Grand, j'étais pas Henri IV, enfin j'étais pas dans les filières d'excellence, je savais même pas ce que c'était qu'une classe de cagne. Et donc j'ai tout appris par moi-même. Et c'est vrai que mon père évidemment était gaulliste, vous pensez bien, parce qu'il avait fait la guerre d'Espagne avec Malraux, et puis après il était entré bien sûr dans la résistance pendant la guerre. Et donc en 68, moi je pouvais pas être 68ard, c'est pas que j'étais à droite, c'est pas ça. J'étais gaulliste parce que l'idée que des maoïstes ou des trotskistes allaient renverser le général de Gaulle était dans ma famille de gaullistes évidemment insupportable. C'est pas qu'on défendait la droite, pas du tout. Moi, j'ai jamais été de droite d'une certaine manière. Enfin, j'étais gaulliste, bon, républicain. Mais c'était l'idée que, non, Mao, pas possible. D'ailleurs, franchement, j'avais raison, parce que, enfin, nous avions raison dans cette famille, parce que la révolution culturelle chinoise, ça a été 70 millions de morts quand même. Donc, c'était quand même une connerie sans nom. Voilà. C'est pas les gaullistes qui se trompaient à l'époque. C'est vraiment eux qui ont défendu, au fond, ce qui a été de pire depuis Hitler, c'était le maoïsme.
Luc Ferry, on ne devient pas à 31 ans l'un des plus jeunes professeurs d'université de France, en théorie, sans être passé par Cagnes et Normal Sup. Vous, si. Voilà. Et il faut dire qu'avant de devenir ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en 2002, eh bien, tout votre parcours a été atypique et vous a permis d'enseigner aussi bien dans des lycées qu'à Normal Sup. Alors, ce serait long de dérouler tout le film, mais j'imagine, Luc Ferry, que il est infiniment plus difficile d'enseigner la philo dans un lycée des Mureaux à Mantes-la-Jolie, ce que vous avez fait, qu'à des normaliens.
Ah ben oui, moi je faisais les deux en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais en effet, pas pendant longtemps, j'ai été pendant je crois 2 ans prof au lycée des Mureaux, et puis en même temps je faisais la préparation à la grègue à Normal Sup, à Rudulme, et donc c'était évidemment deux publics complètement différents. Moi j'étais très très jeune bien sûr, j'étais très gamin même, mais c'est vrai que j'avais eu la chance qu'on me propose de faire un cours d'agrégation à Ulm, et c'était évidemment passionnant. Puis après j'ai dirigé un centre de recherche à Ulm, mais
oui.
moi j'étais pas normalien, moi j'étais même pas passé par
l'école Cagnes-Cagnes. Vous avez été attaché de recherche au CNRS.
Oui, après j'ai été attaché de recherche au CNRS, et puis donc j'ai passé
président du Conseil National des Programmes.
Alors ça c'est bien après, mais j'ai passé la grecque de philo, et puis j'ai fait une thèse de doctorat d'État, grâce d'ailleurs à mon amie Evelyne Pizier, qui nous a quittés aujourd'hui, mais c'est vraiment
qui
grâce
était
à elle.
L'épouse de notre ami journaliste Olivier Duhamel.
Exactement, et avant de Bernard Kouchner, elle a eu deux maris qui sont tous les deux des gens d'ailleurs exceptionnels. Et puis j'ai passé après la grecque de sciences politiques, donc une deuxième agrègue, ce qui m'a permis d'être en effet le prof d'université, je crois à l'époque le plus jeune de France. Enfin, ça n'a aucune importance tout ça, mais c'est vrai que c'était vraiment...
Mais tout ça pour dire que...
J'étais sauvé par l'école républicaine. Quoi.
Voilà, on peut avoir effectivement des chemins assez atypiques, parce que normalement...
Ah oui, normalement j'étais perdu.
On est obligé de passer Parcagne et Normal Sup.
Normalement, la voie royale, c'était Henri IV, Louis le Grand, Hippocagne, Normal Sup. Voilà, tous mes amis pratiquement sont passés par là. Et moi, j'ai fait mes études, une partie de mes études en Allemagne, donc à l'université de Heidelberg. Et c'est vrai que ça m'a énormément appris. Puis après, j'ai passé 20 ans de ma vie à traduire les philosophes allemands, Kant, Hegel.
Le fait d'avoir étudié la philo en Allemagne, à l'université d'Heidelberg, ça vous a donné... En fait, vous pensez une vision tout à fait différente de celle que vous auriez eue si vous aviez étudié ici à Paris.
J'ai eu un prof absolument génial qui est toujours de ce monde et que je ne sais pas s'il m'entendra, Heinz Wissmann, et qui à la fois m'a incité, et je l'ai suivi, à continuer à travailler le grec et le latin, enfin surtout le grec. Et puis, il m'a fait partir en Allemagne. C'est lui qui m'a fait partir en Allemagne parce qu'il m'a dit, mais voilà, sans le grec et l'allemand, en philo, c'est mort, on ne peut rien faire. Et donc, il faut pouvoir lire les philosophes allemands en allemand et les philosophes grecs en grec. Voilà. Et ce n'était pas par cuistrerie, mais...
Oui, mais lire dans le texte,
mais c'est
et pas des
clair.
Traductions.
Mais c'est mille fois plus clair. Quand vous lisez l'allemand, par exemple, c'est beaucoup plus facile de lire Kant ou Hegel en allemand que de lire en français, parce qu'il y a beaucoup moins de jargon, puis tout parle, tout a du sens. Bon, comme disait Hegel, on est quand même des nains juchés sur le dos de géants. Voilà. Et donc, il faut d'abord, avant de penser par soi-même, il faut penser par les autres. Il faut respecter les Kant, les Aristote, les Platon. Voilà. Et donc, on peut pas, Descartes et Spinoza, on peut pas, penser par soi-même sans commencer avec humilité par penser avec les autres et par les autres. Et là, la traduction, c'est une école d'humilité formidable.
On retrouve tout de suite Luc Ferry.
Depuis 15 heures, il nous explique pourquoi l'acte de philosopher éclaire les grandes questions de l'existence. Mais pas seulement. Il, c'est l'invité d'Isabelle Morizet, que l'on retrouve pour la suite de « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
C'est en compagnie de Luc Ferry qu'on chemine cet après-midi. Luc Ferry qui vient de faire paraître chez Plon un dictionnaire amoureux de la philosophie. Cher Luc Ferry, alors, mai 68 n'a pas été une révolution politique, mai 68 a été une révolution sociétale.
Oui.
Moi j'aimerais bien savoir si les ébauches de guerre civile qu'on constate depuis deux mois en France, car effectivement depuis... plus de 8 semaines, on donne rendez-vous aux Français avec la guerre civile du samedi. Donc j'aimerais bien savoir si, selon vous, ces mouvements peuvent accoucher d'une révolution qui, elle, sera politique, donc bien plus radicale que celle de mai 68.
Non, je ne pense pas, parce qu'en mai 68, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment une révolution sociétale. Il y a vraiment des effets, par exemple les lois Auroux pour la démocratie d'entreprise, la reconnaissance des homosexuels, par exemple le féminisme, tout ça a progressé en France de manière formidable dans l'après 68. En revanche, en mai 68, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la Constitution de 58 n'a pas changé aujourd'hui. Donc 62, c'est la date de l'élection du président de la République au suffrage universel.
Oui.
Donc on n'a pas eu de changement politique. On n'est pas dans un régime communiste ou fasciste. On est toujours dans la même Constitution.
On est tout à fait d'accord. Bon. Mais justement,
la comparaison
agite la France aujourd'hui.
Ben justement, l'immense différence, c'est qu'en mai 68, il y a des idéologies extrêmement fortes qui sont, à mon avis, funestes et même mortel, mortifère. Mais en mai 68, vous avez des maoïstes, vous avez des... Souvenez-vous que le PC est encore à 25%. Bon, aujourd'hui, il est à 2%. Bon, tous mes amis, à l'époque, sont révolutionnaires. Ce qui domine mai 68, c'est l'idée révolutionnaire. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de grandes idéologies. Et donc, on a affaire aujourd'hui à un paysage politique où tout le monde est républicain, y compris Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ils sont pour les élections.
Tout le monde est républicain, mais on a le sentiment que tout le monde a la potentialité d'être révolutionnaire.
Oui, mais sans
ou anarchiste.
Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de grande vision du monde comme le marxisme à gauche ou comme le romantisme et l'hitlérisme, le fascisme à droite. Vous n'avez ni fasciste ni communiste dans ce mouvement. Vous avez des gens qui sont révoltés, qui sont dans la rue parce qu'ils demandent, en gros... Un, qu'on leur foute la paix avec leur bagnole, et deux, qu'on leur donne un pouvoir d'achat plus grand.
Alors pourquoi nous explique-t-on que les extrêmes se retrouvent, encadrent le mouvement ?
Parce que les extrêmes sont des partis encore tribuniciens, comme on disait, pardon du jargon, mais les extrêmes, que ce soit d'ailleurs Mélenchon ou Le Pen, les extrêmes sont des partis... populistes, comme on dit. Populistes, ça veut dire quoi? Ils sont populaires et populistes, c'est-à-dire qu'au fond, ils profitent de l'exaspération des gens. Pompidou disait qu'il ne faut pas emmerder les Français, mais là, on les a emmerdés au-delà du descriptible.
Alors, la question que je vais poser concerne en fait le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse que vous avez été de 2002 à 2004,
oui.
Luc Ferry. Et il faut pour ça revenir à mai 68. Oui. Mai 68, on l'a dit tout à l'heure, a été une révolution sociétale qui, pour la première fois, a donné la parole à la jeunesse. Oui. Comment se fait-il que mai 68 n'ait pas eu des effets formidablement bénéfiques sur l'enseignement dans ce pays ?
Parce que paradoxalement, les enfants ne sont pas forcément les mieux placés pour décider de ce qui est bon pour eux en termes d'enseignement, donc en termes d'éducation. Paradoxalement, il y avait un slogan « Soyez moderne, apprenez à lire et à écrire voilà, », et aussi « Apprendre à lire et à écrire nuit gravement à l'ignorance ». Ces slogans traditionnalistes, si je puis dire, sont des slogans qui sont justes. Et donc on a cru, avec dans l'après 68, la naissance des sciences de l'éducation, avec la démocratisation de l'enseignement, etc. On a cru que donner la parole aux enfants, supprimer les cours magistraux allait être formidable. Non, on a cru que l'auto-éducation ou l'auto-apprentissage, par exemple, faire rédiger par les enfants dans un collège, le règlement intérieur du collège, ce serait formidable parce que comme ils l'auraient rédigé eux-mêmes, eh bien, ce serait plus important pour eux. C'est exactement le contraire. C'est exactement parce que vous perdez la sacralité. Donc, je pense qu'il y a eu une immense illusion post-68-art. C'était l'idée d'auto-construction des savoirs. L'idée que l'enfant, les méthodes hyperactives, l'enfant va tout apprendre par lui-même. Et c'est pas vrai. Simplement, c'est faux. Si je fais un très bon cours d'histoire ou si je fais un très bon cours de philosophie, par exemple, si je vais vous expliquer ce que c'est que le schématisme chez Kant, ce qui est très compliqué à comprendre, mais si je prends une heure pour vous l'expliquer, vous allez gagner 10 ans par rapport au travail que vous allez faire en découvrant la critique de la raison pure, qui est illisible pour vous aujourd'hui. C'est illisible pour un enfant aujourd'hui ou pour un adulte qui n'a pas fait des études de philosophie. Donc l'idée que l'enfant va tout apprendre par lui-même, sans passer par des cours magistraux, est une idée fausse. Alors, c'est ça qui est sorti de mai 68, et ça a été une grande illusion.
Mai 68 a aussi lancé d'autres injonctions, comme celle par exemple du bonheur, l'injonction à être heureux absolument à tout prix, comme si le bonheur était à la fois d'abord une hygiène de vie, mais surtout un dû. Oui. Or, vous dites que dans nos sociétés actuelles, eh ben, ce souci de soi, il devient un petit peu envahissant.
Écoutez, je dois être à peu près le seul philosophe dans ma génération à ne pas être un philosophe du bonheur, parce que je pense que le bonheur est une idée absurde.
J'ai reçu à ce micro Frédéric Lenoir il y a peu de temps.
Oui, Frédéric est un ami, mais nous sommes en total désaccord. Voilà. Donc ça n'empêche pas l'amitié. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. C'est un homme charmant et il travaille beaucoup. Je suis en total désaccord avec les idéologies du bonheur, avec la psychologie positive. Pourquoi ? Parce que je pense que le but de la vie humaine n'est pas le bonheur. Évidemment qu'on cherche tous à être heureux. Alors si vous dites,
alors
est-ce que vous préférez être heureux ou malheureux ? C'est la liberté, c'est l'intelligence, c'est le courage, c'est pas le bonheur. Le bonheur, de toute façon,
Isabelle, vous alliez me dire, c'est apprendre à se résigner.
Mais non, pas du tout. C'est apprendre à être libre et intelligent. Et surtout à aimer, voilà. Mais si vous avez des enfants, si vous avez des gens que vous aimez autour de vous, vous savez très bien que la plus grande joie qu'on a dans sa vie, c'est celle que vous donnent les gens que vous aimez. Mais c'est aussi la plus grande angoisse qui soit. Moi, j'ai 3 filles que j'aime par-dessus tout. Je donnerais ma vie pour elles dans la seconde s'il fallait le faire. Je pense au choix de Sophie, par exemple. Bon, évidemment que ma vie est beaucoup moins importante que la leur. Elle me donne des joies dans l'existence qui sont les joies les plus grandes qu'on puisse connaître. Mais en même temps, c'est une angoisse qui est absolument permanente. Et donc, je ne suis pas heureux au sens où je serais comme le sage spinoziste ou stoïcien qui est dans l'ataraxie, comme on dit, qui est dans l'absence de passion et dans l'absence de troubles. C'est complètement
ridicule. Le bouddhisme, par exemple.
Mais bien sûr. Mais le bouddhisme.
C'est le détachement, en fait.
Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Vous savez, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour notre moine bouddhiste national, Mathieu Ricard. Bon, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais Mathieu Ricard, il est moine. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Donc, quand vous êtes moine, et il a raison d'être moine d'une certaine manière, il est en accord avec ça. Pensée bouddhiste, avec le non-attachement. Et donc, c'est faisable. Mais moi, je ne suis pas moine. Donc, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis, je suis dans le ciel, je suis dans la vie réelle. Et donc, quand vous avez des gens auxquels vous êtes attaché, vous savez très bien que si l'être que vous aimez le plus est dans le malheur, dans la maladie, que même vous avez un enfant qui ne trouve pas du travail, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail, il y a 20% de chômage des jeunes. Bon, quand vous avez un enfant qui cherche du travail, quand vous avez un enfant qui est malade, quand vous avez un enfant qui est malheureux, vous n'êtes pas dans l'absence de troubles. Cette absence de troubles que prônent les moines bouddhistes ou que prônent les philosophes stoïciens ou les philosophes du bonheur aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont jamais aimé personne. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas dans l'absence de trouble. Vous êtes constamment troublé. Voilà. Moi, j'ai ma maman qui est à l'hôpital aujourd'hui. Eh ben, je ne suis pas dans l'absence de trouble. Mon ami André Comte-Sponville dit quelque chose qui est beaucoup plus juste. Il dit le seul bonheur qu'on puisse connaître dans l'existence, je suis là-dessus totalement d'accord avec lui, c'est quand on se lève le matin et qu'on sait que la joie est possible. Et le malheur, c'est quand on se lève le matin et qu'on sait que la joie est impossible. Mais c'est le mieux auquel on puisse arriver. Mais l'idée du bonheur comme absence de trouble définitif, cette idée bouddhiste ou stoïcienne, elle est complètement absurde. Voilà. Et c'est un mensonge, c'est pas une vérité, c'est un mensonge.
On va méditer là-dessus. On retrouve tout de suite Luc Ferry.
Et c'est un amoureux de la philosophie qui se confie au micro d'Isabelle Morizet cet après-midi. Nous sommes en compagnie de Luc Ferry jusqu'à 16h sur Europe 1.
Cher Luc Ferry, pendant la pause, on continuait de deviser sur cette idéologie du bonheur complètement artificielle, selon vous, et qui vient des sagesses orientales, du bouddhisme, par exemple. Et vous m'avez cité une phrase du Dalai Lama tout à fait frappante que j'aimerais que vous livriez aux auditeurs, parce que vraiment, elle mérite réflexion.
Parce que le Dalai Lama, lui, au moins, il est honnête. C'est-à-dire qu'il dit une chose qui est très vraie. Il dit, si vous voulez arriver au fond à l'absence de trouble, à la sérénité parfaite, ça suppose le non-attachement, ce qui ne veut pas dire l'indifférence aux autres. Moi, je suis honnête, je ne dis pas ça veut dire qu'on méprise les autres, non. Mais le non-attachement, la sérénité n'est possible que quand on n'a ni enfant, ni famille. Et c'est ce que le dit Dalai Lama, il dit voilà.
Ni femme.
Ni femme. Donc la vie monacale, dit-il, il le dit très bien, la condition nécessaire de la sagesse, c'est la vie monacale. Si vous avez une famille, forcément, vous allez vous attacher à vos femmes, à vos maris, à vos enfants, à vos parents. Et si vous êtes dans le siècle, d'une certaine manière, dans la famille, dans les attachements, comment avoir des enfants sans s'attacher à eux? C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on aura dans ce cas-là? On aura des moments de joie. On a très, très intense, on aura des moments de plaisir aussi, avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, on aura des moments de plaisir et de joie, mais le bonheur comme absence de trouble, comme sérénité parfaite, comme peut l'avoir le moine bouddhiste, jamais.
Ça n'est pas pour
c'est
nous.
C'est pas possible. Voilà. Et pourquoi les enfants? Là aussi, je me suis engueulé cette semaine avec un évêque dont je tairai le nom. On s'est engueulé amicalement, mais c'est une vraie discussion. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'enfants ne connaît pas la forme d'amour que suscitent en nous les enfants. On peut avoir aimé ses parents, ses frères et sœurs, ses femmes, ses maîtresses, ses amants, ses maris, tout ce que vous voudrez. Les enfants vous arrachent des sentiments qui n'ont rien à voir avec les autres formes d'amour. Pourquoi? Parce que quand on a un enfant, on l'aime d'abord sans demander la réciprocité. On l'aime à fond perdu. C'est l'amour gratuit. C'est la seule image, au fond, que nous ayons d'agapé. C'est l'amour absolument gratuit. Vous aimez un enfant avant qu'il vous le rende, d'une certaine manière. Dans un couple, si vous ne demandez pas à votre mari, ou à l'homme que vous aimez, ou à la femme que vous aimez, une réciprocité, c'est vous êtes masochiste. Bon. Tandis qu'un enfant, on ne lui demande pas la réciprocité. Moi, je me souviens quand mes filles commençaient à rigoler quand je jouais avec elles. C'est 2 mois, c'est 3 mois quand elles commencent vraiment. Vous savez, on joue avec elles sur le lit, puis elles ont ces petits rires de gorge tout petits. Et là, on commence à rentrer peut-être dans la réciprocité, mais on ne leur demande pas ça. On les aime avant toute chose et gratuitement, et quoi qu'ils fassent d'une certaine manière. C'est un amour absolument gratuit. Et ça, je pense que les gens qui n'ont pas d'enfants, que ce soit les prêtres ou que ce soit les moines ou que ce soit dans la cité des gens qui n'ont pas d'enfants, ne peuvent pas comprendre ça. Donc ils croient au bonheur parce qu'en effet, ils peuvent rentrer dans cette logique de l'absence de trouble. Mais quand on est père de famille ou mère de famille, on sait que l'absence de trouble, c'est fini, c'est râpé, c'est terminé, c'est carbonisé. Voilà.
Carbonisé.
Donc encore une fois, des moments de joie, oui, des moments de plaisir, évidemment, mais le bonheur comme absence de trouble, comme sérénité parfaite, c'est une blague.
J'aime beaucoup cette conclusion pour un philosophe, c'est une blague. Alors, quittons l'idéologie presque hystérique du bonheur pour aller vers l'amour de la philosophie.
Oui,
Luc Ferry, en 2019, pour partager donc cet amour de la philo, le philosophe peut soit rédiger un dictionnaire amoureux de la philosophie, ce que vous avez fait, et il vient de paraître chez Plon, soit, et alors ça c'est inédit comme vulgarisation, concevoir une collection de bandes dessinées qui met en scène donc la mythologie grecque en reprenant tous les grands thèmes et les grands textes fondateurs. Alors la nouvelle bande dessinée de cette collection, qui a pour titre La sagesse des mythes et qui paraît chez Glénat, met en scène les mésaventures du roi Midas. Mais à qui ça s'adresse réellement, parce que les ados, ils sont difficiles à captiver avec ce genre de thème.
Oh non, ils adorent ça, en fait. Ils aiment vraiment la mythologie.
Les ados de 2019 ?
Oui, ils adorent ça. En fait, c'est probablement dans l'enseignement, c'est ce qui marche le mieux, c'est quand vous avez... Et même les petits, moi j'ai fait des cours sur la mythologie dans CM1, CM2, donc à l'école primaire. Les petits adorent ça, en vérité. Ils se souviennent de Jason, là, les Argonautes, enfin, tout ça, ça parle à tout le monde.
Tout ça, vous les... voilà, tous voilà. Ces mythes-là, vous les avez mis en scène dans cette collection.
Tous les grands mythes, il y aura 30 BD. Je crois qu'il y en a 10 qui sont déjà sortis chez Glénat, en effet. Et alors, j'ai des dessinateurs géniaux. On a ensemble, avec l'équipe des dessinateurs, on a fait en sorte que l'iconographie, c'est-à-dire les images, si vous voulez, soit absolument fidèle historiquement à ce que c'était à l'époque. Autrement dit, vous rentrez dans le 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce soit les vases, les bateaux, les chars, les armes, les maisons, les couverts, tout ça est parfait. Et moi, j'ai repris tous les textes grecs originaux. Donc, en gros... ce qu'on appelle la Grèce archaïque, c'est entre le 8e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, évidemment. Et je suis toujours reparti pour raconter ces mythes des versions originelles, parce que les versions originelles sont souvent beaucoup plus profondes que les variations qui ont suivi.
Et ça paraît chez Glénat.
Chez
voilà.
Glénat, oui.
La collection a pour titre
Glénat est un type formidable,
la sagesse
parce qu'il a créé sa boîte quand il avait 15 ans. Et Glénat, Jacques Glénat, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est donc le fondateur de cette maison d'édition, avec sa fille Marion Glénat. Et ils sont formidables parce que c'est la plus grande maison d'édition au monde de BD indépendante. Voilà, donc chapeau.
Chapeau. On retrouve tout de suite Luc Ferry.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin à 15h51. Eh bien, on retrouve Isabelle Morizet et son invité.
C'est en compagnie de Luc Ferry qu'on se balade cet après-midi. Luc Ferry qui vient de faire paraître chez Plon un dictionnaire amoureux de la philosophie. Luc Ferry, je crois savoir que vous êtes toujours pilote automobile et essayeur pour la revue Car Life Magazine, ce qui vous permet de conduire toutes sortes de merveilles. Hein, de la Jaguar Type D, qui a gagné les 24 heures du Mans.
Exactement,
55,
ouais.
À, très récemment, paraît-il, une sublime Formule 1. Alors, quel rapport un philosophe peut-il entretenir avec l'esprit de performance ? L'esprit de compétition.
Alors, ce n'est pas seulement l'esprit de performance, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Alors, je conduis des voitures de course et quelquefois encore en course, oui. Je conduis notamment une petite voiture qui s'appelle une Lamera. Quand vous êtes dans un sport violent, parce que c'est quand même très violent.
Physique. Hein.
Ah, c'est très physique et puis c'est dangereux quand même. Donc, quand vous êtes au volant d'une vraie voiture de course qui va vraiment vite et qui est vraiment dangereuse, quel intérêt ça? Pourquoi faire ça? Ce qui est très intéressant dans les sports violents, que ce soit dans n'importe quel sport violent,
c'est qu'on vit la quintessence de l'instant.
Exactement. Vous avez mis le doigt dessus. Là, il y a quelque chose qui est vrai dans la tradition grecque ancienne, dans le bouddhisme aussi. C'est l'idée que ces moments, moi j'appelle ça des moments de grâce, ces moments où on habite l'instant présent, on n'est plus dans la nostalgie du passé ou dans l'espérance d'un avenir meilleur. Quand je suis au bout du circuit du Castellet, dans le double Bessay, que j'essaie de passer à 180 km/h, j'y arrive pas d'ailleurs, je passe plutôt à 165 maintenant, mais même à 160 km/h, vous êtes obligé d'habiter l'instant présent. Vous ne pouvez pas être dans la nostalgie ou dans l'espérance, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Et donc c'est des moments, ou d'une certaine manière, des moments de grâce, parce que vous habitez le présent, vous ne pouvez pas penser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire.
Mais vous êtes déjà fait très très peur au volant d'un prototype de course?
Ça m'est arrivé 2-3 fois de sortir de la route, c'est jamais très agréable, mais je me suis jamais fait mal pour l'instant. Mais c'est vrai que quand on sort de la route assez vite, quelquefois c'est très... Oui, on se fait peur, évidemment. Mais et chaque fois, c'est la deuxième chose, chaque fois, et vous verrez dans votre vie, que vous réussissez à vaincre une peur, vous avez un sentiment de liberté qui vous envahit, qui est à nul autre pareil.
Cher Luc Ferry, le temps file et c'est cruel. Alors, juste avant que nous nous quittions, je voudrais revenir sur votre dictionnaire amoureux de la philosophie qui vient de paraître chez Plon, à la fin duquel vous consacrez une page savoureuse et optimiste à la vieillesse. Vous affirmez que vieillir est une chance, la chance d'échapper à sa particularité de départ, si on en profite bien sûr pour apprendre, donc pour élargir sa pensée, en fait pour aller vers l'universel. Mais moi, j'ai envie de vous répondre que tout de même, la vie abîme, la vie déconstruit. Il faut beaucoup de force pour ne pas replier ses ailes et continuer d'avoir envie de découvrir.
J'avais un ami dont je ne vais pas citer le nom, qui était un des plus grands violoncellistes français, enfin même à mes yeux le plus grand, et qui avait une blague de très mauvais goût. Il disait « En vieillissant, les raideurs se déplacent ». Ce n'est pas très élégant, mais voilà, il pensait évidemment aussi à ses malheureux doigts. Il y a évidemment beaucoup d'inconvénients à vieillir, ça ne m'échappe pas. En même temps, comme dirait l'autre, il y a un immense avantage, c'est la possibilité de ce que Kant appelait la pensée élargie. Dans tous mes livres, j'ai cité un poème de Victor Hugo, puis on va peut-être terminer avec lui. Je ne l'ai pas relu depuis longtemps, mais je l'ai encore en tête. Vous savez, c'est Beauze endormi. Dans la Bible, Beauze est un très grand vieillard. Il épouse une jeune femme ravissante avec Ruth, une Moabite avec laquelle il va avoir une descendante. J'ai cité, je crois, ce poème à peu près dans tous mes livres. D'ailleurs, mon jeune ami Raphaël Antoven m'a reproché ça un jour. Il a sûrement raison. Mais j'adore ce poème qui est un éloge de la vieillesse. Beauze était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Beauze plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Que veut dire Victor Hugo dans ce poème? Il veut dire que, oui, malgré tous les inconvénients de la vieillesse, c'est le seul moyen d'élargir l'horizon. La seule chose que les jeunes gens ne peuvent pas avoir, je vais vous dire une banalité, ils peuvent avoir toute l'intelligence du monde, ils ne peuvent pas avoir l'expérience. L'expérience, c'est l'élargissement de l'horizon. C'est le fait que, par exemple, quand vous apprenez une langue étrangère, vous entrez dans plus d'humanité, mais vous comprenez mille fois plus de choses. On n'est pas plus intelligent à 65 ans qu'à 25, on est même probablement beaucoup moins intelligent en termes de performance neuronale, mais on est beaucoup moins con dans bien des secteurs. Voilà. Et donc ça, je le dis un peu brutalement, mais c'est aussi pour plaisanter un peu. Mais voilà, l'élargissement de l'horizon, l'expérience, l'apprentissage de la vie, c'est quelque chose que seuls les ans peuvent vous apporter. Ce n'est pas remplaçable. C'est comme avoir des enfants. Quand on n'en a pas, on ne peut pas savoir ce que c'est. L'expérience, dans certains secteurs, n'est pas remplaçable.
Vous me promettez que nous poursuivrons cette conversation, Luc Ferré?
Promis juré.
Promis juré, c'est formidable. Je vous dis à très bientôt, merci.
Avec grand plaisir, merci à vous surtout.